Ceci est le drame dans mon âme. Mais ce n'est pas le drame extérieur qui se joue en ce moment dans Paris. Le drame intérieur n'intéresse personne. Je le sais, et vous le reconnaîtrez un jour, vous qui pleurez en ce moment avec moi. Personne ne superpose à son cœur ni à son épiderme la douleur d'autrui. La mesure des douleurs est en nous. Vous-même, vous ne comprenez mes souffrances que par une analogie très vague. Pouvez-vous me voir calmant les rages les plus violentes du désespoir par la contemplation d'une miniature où mon regard retrouve et baise son front, le sourire de ses lèvres, le contour de son visage, où je respire la blancheur de sa peau et qui me permet presque de sentir, de manier les grappes noires de ses cheveux bouclés? M'avez-vous surpris quand je bondis d'espérance, quand je me tords sous les mille flèches du désespoir, quand je marche dans la boue de Paris pour dompter mon impatience par la fatigue? J'ai des énervements comparables à ceux des gens en consomption, des hilarités de fous, des appréhensions d'assassins qui rencontrent un brigadier de gendarmerie. Enfin, ma vie est un continuel paroxysme de terreur, de joie, de désespoir. Quant au drame, le voici. Vous me croyez occupé du Conseil d'État, de la Chambre, du Palais, de la politique. Eh mon Dieu, 7 heures de la nuit suffisent à tout, tant la vie que je mène a surexcité mes facultés. Honorine est ma grande affaire. Reconquérir ma femme, voilà ma seule étude. La surveiller dans la cage où elle est, sans qu'elle se cache en ma puissance. Satisfaire à ses besoins, veiller au peu de plaisir qu'elle se permet, être sans cesse autour d'elle, comme un sylphe, sans me laisser ni voir ni deviner, car tout mon avenir serait perdu. Voilà ma vie, ma vraie vie. Depuis 7 ans, je ne me suis jamais couchée sans être allée voir la lumière de sa veilleuse ou son ombre sur les rideaux de la fenêtre. Elle a quitté ma maison sans en vouloir emporter autre chose que sa toilette de ce jour-là. L'enfant a poussé la noblesse des sentiments jusqu'à la bêtise. Aussi, 18 mois après sa fuite, était-elle abandonnée par son amant, qui fut épouvanté par le visage âpre et froid, sinistre et puant de la misère, le lâche. Cet homme avait sans doute compté sur l'existence heureuse et dorée en Suisse et en Italie que se donnent les grandes dames en quittant leur mari. Honorine a de son chef 60 000 francs de rente. Ce misérable a laissé la chère créature enceinte et sans un sou. En 1820, au mois de novembre, j'ai obtenu du meilleur accoucheur de Paris de jouer le rôle d'un petit chirurgien de faubourg. J'ai décidé le curé du quartier où se trouvait la comtesse à subvenir à ses besoins, comme s'il accomplissait une œuvre de charité. Cacher le nom de ma femme, lui assurer l'incognito, lui trouver une ménagère qui me fût dévouée et qui fût une confidente intelligente. Bah, ce fut un travail digne de Figaro. Vous comprenez que, pour découvrir l'asile de ma femme, il me suffisait de vouloir. Après 3 mois de désespérance, plutôt que de désespoir, la pensée de me consacrer au bonheur d'Honorine, en prenant Dieu pour confident de mon rôle, fut un de ces poèmes qui ne tombent qu'au cœur d'un amant quand même. Tout amour absolu veut sa pâture. Mais ne devais-je pas protéger cet enfant, coupable par ma seule imprudence, contre de nouveaux désastres, accomplir enfin mon rôle d'ange gardien? Après 7 mois de nourriture, le fils mourut, heureusement pour elle et pour moi. Ma femme fut entre la vie et la mort pendant 9 mois, abandonnée au moment où elle avait le plus besoin du bras d'un homme. « Mais ce bras, dit-il en tendant le sien par un mouvement d'une énergie angélique, fut étendu sur sa tête. Honorine fut soignée comme elle l'eût été dans son hôtel. Quand, rétablie, elle demanda comment, par qui elle avait été secourue, on lui répondit « Les sœurs de charité du quartier, la société de maternité, le curé de la paroisse qui s'intéressait à elle. Cette femme, dont la fierté va jusqu'à être un vice, a déployé dans le malheur une force de résistance que, par certaines soirées, j'appelle un entêtement de mule. Honorine a voulu gagner sa vie. Ma femme travaille. Depuis 5 ans, je la tiens, rue Saint-Maur, dans un charmant pavillon où elle fabrique des fleurs et des modes. Elle croit vendre les produits de son élégant travail à un marchand qui les lui paie assez cher pour que la journée lui vaille 20 francs, et n'a pas eu depuis 6 ans un seul soupçon. Elle paie toutes les choses de la vie, à peu près le tiers de ce qu'elles valent, en sorte qu'avec 6 000 francs par an, elle vit comme si elle avait 15 000 francs. Elle a le goût des fleurs et donne 100 écus à un jardinier qui me coûte à moi 1 200 francs de gage et qui me présente des mémoires de 2 000 francs tous les 3 mois. J'ai promis à cet homme un marais et une maison de maraîcher contiguë à la loge du concierge de la rue Saint-Maur. Cette propriété m'appartient sous le nom d'un commis greffier de la cour. Une seule indiscrétion ferait tout perdre au jardinier. Honorine a son pavillon, un jardin, une serre superbe pour 500 francs de loyer par an. Elle vit là sous le nom de sa femme de charge, Madame Gobin, cette vieille d'une discrétion à toute épreuve que j'ai trouvée et de qui elle s'est fait aimer. Mais ce zèle est, comme celui du jardinier, entretenu par la promesse d'une récompense au jour du succès. Le concierge et sa femme me coûtent horriblement cher par les mêmes raisons. Enfin, depuis 3 ans, Honorine est heureuse, elle croit devoir à son travail le luxe de ses fleurs, sa toilette et son bien-être. Oh, je sais ce que vous voulez me dire, s'écria le comte en voyant une interrogation dans mes yeux et sur mes lèvres. Oui, oui, j'ai fait une tentative. Ma femme était précédemment dans le faubourg Saint-Antoine. Un jour, quand je crus sur une parole de la Gobin à des chances de réconciliation, j'écrivis par la poste une lettre où j'essayais de fléchir ma femme, une lettre écrite, recommencée 20 fois. Je ne vous peindrai pas mes angoisses. J'allais de la rue Payenne à la rue de Reuilly, comme un condamné qui marche du palais à l'hôtel de ville. Mais il est en charrette, et moi je marchais. Il faisait nuit, il faisait du brouillard. J'allais au-devant de Madame Gobin, qui devait me répéter ce qu'avait fait ma femme. Honorine, en reconnaissant mon écriture, avait jeté la lettre au feu sans la lire. Madame Gobin, avait-elle dit, je ne veux pas être ici demain. Fût-ce un coup de poignard que cette parole pour un homme qui trouve des joies illimitées dans la supercherie, au moyen de laquelle il procure le plus beau velours de Lyon à 12 francs l'aune, un faisan, un poisson, des fruits au 1/10 de leur valeur, à une femme assez ignorante pour croire payer suffisamment, avec 250 francs, Madame Gobin, la cuisinière d'un évêque. Vous m'avez surpris, me frottant les mains quelquefois et en proie à une sorte de bonheur. Eh bien, je venais de faire réussir une ruse digne du théâtre. Je venais de tromper ma femme, de lui envoyer par une marchande à la toilette un châle des Indes, proposé comme venant d'une actrice qu'il avait à peine porté, mais dans lequel, moi, ce grave magistrat que vous savez, je m'étais couché pendant une nuit. Enfin, aujourd'hui, ma vie se résume par les 2 mots avec lesquels on peut exprimer le plus violent des supplices. J'aime et j'attends. J'ai dans Madame Gobin une fidèle espionne de ce cœur adoré. Je vais toutes les nuits causer avec cette vieille, apprendre d'elle tout ce qu'Honorine a fait dans sa journée, les moindres mots qu'elle a dit. Car une seule exclamation peut me livrer les secrets de cette âme qui s'est faite sourde et muette. Honorine est pieuse, elle suit les offices, elle prie. Mais elle n'est jamais allée à confesse et ne communie pas. Elle prévoit ce qu'un prêtre lui dirait. Elle ne veut pas entendre le conseil, l'ordre de revenir à moi. Cette horreur de moi m'épouvante et me confond, car je n'ai jamais fait le moindre mal à Honorine. J'ai toujours été bon pour elle. Admettons que j'ai eu quelque vivacité en l'instruisant, que mon ironie d'homme ait blessé son légitime orgueil de jeune fille. Est-ce une raison de persévérer dans une résolution que la haine la plus implacable peut seule inspirer? Honorine n'a jamais dit à Madame Gobin qui elle est. Elle garde un silence absolu sur son mariage, en sorte que cette brave et digne femme ne peut pas dire un mot en ma faveur, car elle est la seule de la maison qui ait mon secret. Les autres ne savent rien. Ils sont sous la terreur que cause le nom du préfet de police et dans la vénération du pouvoir d'un ministre. Il m'est donc impossible de pénétrer dans ce cœur. La citadelle est à moi, mais je n'y puis entrer. Je n'ai pas un seul moyen d'action. Une violence me perdrait à jamais. Comment combattre des raisons qu'on ignore? Écrire une lettre, la faire copier par un écrivain public et la mettre sous les yeux d'Honorine? J'y ai pensé. Mais n'est-ce pas risquer un troisième déménagement? Le dernier me coûte 150 000 francs. Cette acquisition fut d'abord faite sous le nom du secrétaire que vous avez remplacé. Le malheureux, qui ne savait pas combien mon sommeil est léger, a été surpris par moi, ouvrant avec une fausse clé la caisse où j'avais mis la contre-lettre. J'ai toussé et l'effroi l'a saisi. Le lendemain, je l'ai forcé de vendre la maison à mon prête-nom actuel et je l'ai mise à la porte. Si je ne me sentais pas en moi toutes les facultés nobles de l'homme, satisfaite, heureuse, épanouie, si les éléments de mon rôle n'appartenaient pas à la paternité divine, si je ne jouissais pas par tous les pores, il se rencontre des moments où je croirais à quelque monomanie. Par certaines nuits, j'entends les grelots de la folie. J'ai peur de ces transitions violentes d'une faible espérance, qui parfois brille et s'élance à un désespoir complet, qui tombe aussi bas que les hommes peuvent tomber. J'ai médité sérieusement il y a quelques jours le dénouement atroce de Lovelace avec Clarisse, en me disant « Si Honorine avait un enfant de moi, ne faudrait-il pas qu'elle revînt dans la maison conjugale ?» Enfin, j'ai tellement foi dans un heureux avenir qu'il y a 10 mois, j'ai acquis et payé l'un des plus beaux hôtels du faubourg Saint-Honoré. Si je reconquiers Honorine, je ne veux pas qu'elle revoie cet hôtel, ni la chambre d'où elle s'est enfuie. Je veux mettre mon idole dans un nouveau temple où elle puisse croire à une vie entièrement nouvelle. On travaille à faire de cet hôtel une merveille de goût et d'élégance. On m'a parlé d'un poète qui, devenu presque fou d'amour pour une cantatrice, avait, au début de sa passion, acheter le plus beau lit de Paris, sans savoir le résultat que l'actrice réservait à sa passion. Eh bien, il y a le plus froid des magistrats, un homme qui passe pour le plus grave conseiller de la couronne, à qui cette anecdote a remué toutes les fibres du cœur. L'orateur de la chambre comprend ce poète qui repaissait son idéal d'une possibilité matérielle. 3 jours avant l'arrivée de Marie-Louise, Napoléon s'est roulé dans son lit de noces à Compiègne. Toutes les passions gigantesques ont la même allure. J'aime en poète et en empereur. En entendant ces dernières paroles, je crus à la réalisation des craintes du comte Octave. Il s'était levé, marchait, gesticulait, mais il s'arrêta comme épouvanté de la violence de ces paroles. « Je suis bien ridicule !» reprit-il après une fort longue pause, en venant quêter un regard de compassion. « Non, monsieur, vous êtes bien malheureux. »« Oh oui !» dit-il en reprenant le cours de cette confidence. « Plus que vous ne le pensez, par la violence de mes paroles, vous pouvez et vous devez croire à la passion physique la plus intense. » Puisque depuis 9 ans, elle annule toutes mes facultés. Mais ce n'est rien en comparaison de l'adoration que m'inspire l'âme, l'esprit, les manières, le cœur, tout ce qui dans la femme n'est pas la femme. Enfin, ces ravissantes divinités du cortège de l'amour avec lesquelles on passe sa vie et qui sont la poésie journalière d'un plaisir fugitif. Je vois, par un phénomène rétrospectif, ces grâces de cœur et d'esprit d'Honorine auxquelles je faisais peu d'attention au jour de mon bonheur, comme tous les gens heureux. J'ai, de jour en jour, reconnu l'étendue de ma perte en reconnaissant les qualités divines dont était doué cet enfant capricieux et mutin, devenu si fort et si fier sous la main pesante de la misère, sous les coups du plus lâche abandon. Et cette fleur céleste se dessèche solitaire et cachée. Ah, la loi dont nous parlions, reprit-il avec une amère ironie. La loi, c'est un piquet de gendarme. C'est ma femme saisie et amenée de force ici. N'est-ce pas conquérir un cadavre? La religion n'a pas prise sur elle. Elle en veut la poésie. Elle prie sans écouter les commandements de l'Église. Moi, j'ai tout épuisé comme clémence, comme bonté, comme amour. Je suis à bout. Il n'existe plus qu'un moyen de triomphe, la ruse et la patience, avec lesquelles les oiseleurs finissent par saisir les oiseaux les plus défiants, les plus agiles, les plus fantasques et les plus rares. Aussi, Maurice, quand l'indiscrétion bien excusable de M. de Granville vous a révélé le secret de ma vie, ai-je fini par voir dans cet incident un de ces commandements du sort, un de ces arrêts qu'écoutent et que mendient les joueurs au milieu de leurs parties les plus acharnées. Avez-vous pour moi assez d'affection pour m'être romanesquement dévoué? Je vois venir, monsieur le comte, répondis-je en interrompant. Je devine vos intentions. Votre premier secrétaire a voulu crocheter votre caisse. Je connais le cœur du second. Il pourrait aimer votre femme. Et pouvez-vous le vouer au malheur en l'envoyant au feu? Mettre sa main dans un brasier sans se brûler, est-ce possible? Vous êtes un enfant, reprit le comte. Je vous enverrai ganté. Ce n'est pas mon secrétaire qui viendra se loger rue Saint-Maur dans la petite maison de maraîcher que j'ai rendue libre. Ce sera mon petit cousin, le baron de l'Hostal, maître des requêtes. Après un moment donné à la surprise, j'entendis un coup de cloche et une voiture roula jusqu'au perron. Bientôt, le valet de chambre annonça Madame de Courteville et sa fille. Le comte Octave avait une très nombreuse parenté dans sa ligne maternelle. Madame de Courteville, sa cousine, était veuve d'un juge au tribunal de la Seine, qu'il avait laissé avec une fille et sans aucune espèce de fortune. Que pouvait être une femme de 29 ans auprès d'une jeune fille de 20 ans aussi belle que l'imagination pourrait le souhaiter pour une maîtresse idéale? Baron, maître des requêtes, référendaire au sceau en attendant mieux, et ce vieil hôtel pour dot, aurez-vous assez de raisons pour ne pas aimer la comtesse? Me dit-il à l'oreille en me prenant la main et me présentant à Madame de Courteville et à sa fille. Je fus ébloui, non par tant d'avantages que je n'aurais pas osé rêver, mais par Amélie de Courteville, dont toutes les beautés étaient mises en relief par une de ces savantes toilettes que les mères font faire à leurs filles quand il s'agit de les marier. Ne parlons pas de moi, dit le consul en faisant une pause. 20 jours après, reprit-il, j'allais demeurer dans la maison du maraîcher qu'on avait nettoyée, arrangée et meublée, avec cette célébrité qui s'explique par trois mots. Paris, l'ouvrier français, l'argent. J'étais aussi amoureux que le comte pouvait le désirer pour sa sécurité. La prudence d'un jeune homme de 25 ans suffirait-elle aux ruses que j'entreprenais et où il s'agissait du bonheur d'un ami? Pour résoudre cette question, je vous avoue que je comptais beaucoup sur mon oncle, car je fus autorisée par le comte à le mettre dans la confidence au cas où je jugerais son intervention nécessaire. Je pris un jardinier, je me fis fleuriste jusqu'à la manie. Je m'occupais furieusement en homme que rien ne pouvait distraire, de défoncer le marais et d'en approprier le terrain à la culture des fleurs. De même que les maniaques de Hollande ou d'Angleterre, je me donnais pour monofloriste. Je cultivais spécialement des dahlias en en réunissant toutes les variétés. Vous devinez que ma ligne de conduite, même dans ses plus légères déviations, était tracée par le comte, dont toutes les forces intellectuelles furent alors attentives aux moindres événements de la tragicomédie qui devait se jouer à Saint-Maur. Aussitôt la comtesse couchée, presque tous les soirs, entre 11 h et minuit, Octave, Madame Gobin et moi, nous tenions conseil. J'entendis la vieille rendant compte à Octave des moindres mouvements de sa femme pendant la journée. Il s'informait de tout, des repas, des occupations, de l'attitude, du menu du lendemain, des fleurs qu'elle se proposait d'imiter. Je compris ce qu'est un amour au désespoir, quand il se compose du triple amour qui procède de la tête, du cœur et des sens. Octave ne vivait que pendant 7 heures. Pendant 2 mois que durèrent les travaux, je ne jetais pas les yeux sur le pavillon où demeurait ma voisine. Je n'avais pas demandé seulement si j'avais une voisine, quoique le jardin de la comtesse et le mien fussent séparés par un palis le long duquel elle avait fait planter des cyprès déjà hauts de 4 pieds. Un beau matin, Madame Gobin annonça comme un grand malheur à sa maîtresse l'intention manifestée par un original devenu son voisin de faire bâtir à la fin de l'année un mur entre les deux jardins. Je ne vous parle pas de la curiosité qui me dévorait. Voir la comtesse, ce désir faisait pâlir mon amour naissant pour Amélie de Courteville. Mon projet de bâtir un mur était une affreuse menace. Plus d'air pour Honorine, dont le jardin devenait une espèce d'allée serrée entre ma muraille et son pavillon. Ce pavillon, une ancienne maison de plaisir, ressemblait à un château de cartes. Il n'avait pas plus de 30 pieds de profondeur sur une longueur d'environ 100 pieds. La façade peinte à l'allemande figurait un treillage de fleurs jusqu'au premier étage et présentait un charmant spécimen de ce style pompadour si bien nommé rococo. On arrivait par une longue avenue de tilleuls. Le jardin du pavillon et le marais figuraient une hache dont le manche était représenté par cette avenue. Mon mur allait rogner les 3/4 de la hache. La comtesse en fut désolée et dit au milieu de son désespoir « Ma pauvre Gobin, quel homme est-ce que ce fleuriste ?»« Ma foi, dit-elle, je ne sais pas s'il est possible de l'apprivoiser. Il paraît avoir les femmes en horreur. C'est le neveu d'un curé de Paris. » Je n'ai vu l'oncle qu'une seule fois, un beau vieillard de 75 ans, bien laid, mais bien aimable. Il se peut bien que ce curé maintienne, comme on le prétend dans le quartier, son neveu dans la passion des fleurs, pour qu'il n'arrive pas pis. Mais quoi? Eh bien, votre voisin est un hurluberlu, fit la Gobin en montrant sa tête. Les fous tranquilles sont les seuls hommes de qui les femmes ne conçoivent aucune méfiance en fait de sentiment. Vous allez voir par la suite combien le comte avait vu juste en me choisissant ce rôle. « Mais qu'a-t-il ? » demanda la comtesse. « Il a trop étudié, » répondit la Gobin. « Il est devenu sauvage. Enfin, il a des raisons pour ne plus aimer les femmes. » Là, puisque vous voulez savoir tout ce qui se dit. « Eh bien, » reprit Honorine, « les fous m'effraient moins que les gens sages. Je lui parlerai, moi. Dis-lui que je le prie de venir. Si je ne réussis pas, je verrai le curé. » Le lendemain de cette conversation, en me promenant dans mes allées tracées, j'entrevis au premier étage du pavillon les rideaux d'une fenêtre écartée et la figure d'une femme posée en curieuse. La Gobin m'aborda, je regardai brusquement le pavillon et fis un geste brutal, comme si je disais « Je me moque bien de votre maîtresse. »« Madame, dit la Gobain qui revint rendre compte de son ambassade, le fou m'a prié de le laisser tranquille, en prétendant que Charbonnier était maître chez soi, surtout quand il était sans femme.
Il a deux fois raison,
répondit la comtesse. Oui, mais il a fini par me répondre « J'irai », quand je lui ai répondu qu'il ferait le malheur d'une personne qui vivait dans la retraite et qui puisait de grandes distractions dans la culture des fleurs. Le lendemain, je sus par un signe de la Gobain qu'on attendait ma visite. Après le déjeuner de la comtesse, au moment où elle se promenait devant son pavillon, je brisai le palis et je vins à elle. J'étais mis en campagnard, vieux pantalon à pied en molleton gris, gros sabots, vieille veste de chasse, casquette en tête, méchant foulard au cou, les mains salies de terre et un plantoir à la main.
« Madame, c'est le monsieur qui est votre voisin !»
cria la Gobain. La comtesse ne s'était pas effrayée. J'aperçus enfin cette femme que sa conduite et les confidences du comte avaient rendue si curieuse à observer. Nous étions dans les premiers jours du mois de mai. L'air pur, le temps bleu, la verdeur des premières feuilles, la senteur du printemps faisaient un cadre à cette création de la douleur. En voyant Honorine, je conçus la passion d'Octave et la vérité de cette expression. Une fleur céleste. Sa blancheur me frappa tout d'abord par son blanc particulier, car il y a autant de blanc que de rouge et de bleu différents. En regardant la comtesse, l'œil servait à toucher cette peau suave où le sang courait en filets bleuâtres. À la moindre émotion, ce sang se répandait sous le tissu comme une vapeur en nappe rosée. Quand nous nous rencontrâmes, les rayons du soleil, en passant à travers le feuillage grêle des acacias, environnaient Honorine de ce nimbe jaune et fluide que Raphaël et Titien, seuls parmi tous les peintres, ont su peindre autour de la Vierge. Des yeux bruns exprimaient à la fois la tendresse et la gaieté. Leur éclat se reflétait jusque sur le visage à travers de longs cils abaissés. Par le mouvement de ses paupières soyeuses, Honorine vous jetait un charme, tant il y avait de sentiment, de majesté, de terreur, de mépris dans sa manière de relever ou d'abaisser ce voile de l'âme. Enfin, elle pouvait vous glacer ou vous animer par un regard. Ses cheveux cendrés, rattachés négligemment sur sa tête, lui dessinaient un front de poète, large, puissant, rêveur. La bouche était entièrement voluptueuse. Enfin, privilège rare en France, mais commun en Italie, toutes les lignes, les contours de cette tête avaient un caractère de noblesse qui devait arrêter les outrages du temps. Quoique svelte, Honorine n'était pas maigre, et ses formes me semblèrent être de celles qui réveillent encore l'amour quand il se croit épuisé. Elle méritait bien l'épithète de mignonne, car elle appartient à ce genre de petite femme souple qui se laisse prendre, flatter, quitter et reprendre comme des chattes. Ses petits pieds que j'entendis sur le sable y faisaient un bruit léger qui leur était propre et qui s'harmoniait au bruissement de la robe. Il en résultait une musique féminine qui se gravait dans le cœur et devait se distinguer entre la démarche de mille femmes. Son port rappelait tous ses quartiers de noblesse avec tant de fierté que dans les rues, les prolétaires les plus audacieux devaient se ranger pour elle. Gaie, tendre, fière et imposante, on ne la comprenait pas autrement que douée de ces qualités qui semblent s'exclure et qui la laissaient néanmoins enfant. Mais l'enfant pouvait devenir forte comme l'ange, et comme l'ange, une fois blessée dans sa nature, elle devait être implacable. La froideur sur ce visage était sans doute la mort pour ceux à qui ses yeux avaient souri, pour qui ses lèvres s'étaient dénouées, pour ceux dont l'âme avait accueilli la mélodie de cette voix, qui donnait à la parole la poésie du chant par des accentuations particulières. En sentant le parfum de violette qu'elle exhalait, Je compris comment le souvenir de cette femme avait cloué le comte au seuil de la débauche, et comme on ne pouvait jamais oublier celle qui, vraiment, était une fleur pour le toucher, une fleur pour le regard, une fleur pour l'odorat, une fleur céleste pour l'âme. Honorine inspirait le dévouement, un dévouement chevaleresque et sans récompense. On se disait en la voyant, « Pensez, je devinerai, parlez, j'obéirai. Si ma vie, perdue dans un supplice, peut vous procurer un jour de bonheur, prenez ma vie. Je sourirai comme les martyrs sur leur bûcher, car j'apporterai cette journée à Dieu, comme un gage auquel obéit un père en reconnaissant une fête donnée à son enfant. » Bien des femmes se composent une physionomie et arrivent à produire des effets semblables à ceux qui vous eussent saisi à l'aspect de la comtesse. Mais chez elle, tout procédait d'un délicieux naturel, et ce naturel inimitable allait droit au cœur. Si je vous parle ainsi, c'est qu'il s'agit uniquement de son âme, de ses pensées, des délicatesses de son cœur, et que vous m'eussiez reproché de ne pas vous l'avoir crayonné. Je faisais oublier mon rôle d'homme quasi fou, brutal et peu chevaleresque.